Résonance du feu.
En 2022, durant un été brûlant, un feu d'origine accidentelle a consumé près de 1300 hectares de zones boisées sur la commune de Mostuéjoul, en Aveyron. 2 ans après, que reste-t-il comme trace et mémoire de cet incendie pour les habitants? Je m'appelle Elsa Souchet et vous écoutez une série documentaire produite pour Radio Larzac. Un projet soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre d'une résidence de journaliste. Épisode 3, du brasier aux cendres. Ainsi donc c'était reparti. Ce 13 août, le redémarrage de l'incendie de Mostuéjoul est spectaculaire. Les villages sont à nouveau évacués, mais le feu décidera finalement d'épargner la vallée. Il s'en est fallu de très peu, de quelques degrés d'orientation du vent, mais l'incendie va engloutir toute la forêt seulement sur les hauteurs et demeurer sur le plateau, là où se trouvent quelques hameaux très isolés, comme le Vors. Un lieu dit de paix, accessible uniquement par des chemins plus ou moins carrossables, jusqu'ici totalement entouré par des arbres et quelques clairières, là où viennent depuis leur enfance Marie et son frère Armand.
Pour moi, le cause, c'était la nature, c'était la liberté. Et donc, c'est aussi ici que j'ai été intéressée par la nature. Je pouvais passer des heures et des heures à observer des fourmis, à apprivoiser un lézard vert. Et donc, j'ai pu avoir une mutation pour travailler à Montpellier, qui était l'endroit le plus proche, ce qui me permet de venir ici le plus souvent possible, pour les week-ends, pour les vacances.
J'ai l'impression que le lieu a changé avec moi. Il y a eu le Vors de mon enfance, le Vors de mon adolescence, le Vors de ma vie d'adulte. Et plus je vieillis, plus je suis attaché à ici. Les émotions y sont de plus en plus fortes, à l'arrivée et au départ. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est extrêmement puissant. Et ça fait bizarre d'avoir 39 balais et d'être ému aux larmes en revenant dans un endroit.
À 3 reprises, les habitants du Vors ont été évacués durant cette semaine de la mi-août 2022. Le lundi, au départ du feu, le jeudi à nouveau, et puis encore le samedi, lors de la reprise majeure. Un moment où les habitants avaient déjà décidé de partir en attendant que la menace s'éloigne.
On avait décidé de ne pas revenir parce que pour les enfants, c'était quand même assez stressant, c'est cette incertitude. Surtout quand on leur disait « on va peut-être partir, on n'est pas sûr de partir, on attend l'ordre d'évacuation ». On s'est dit « bon, ça suffit, on a déjà été évacué 3 fois, on ne va pas revenir une 4e fois ». Les seules nouvelles qu'on avait, c'était toujours par les réseaux sociaux, en fait. Et par, en particulier, un photographe amateur qui faisait des photos à partir du cause d'en face. On voyait sur ces photos l'ensemble du cause en feu. Et notre maison est au centre. Je pensais que la maison était détruite, que tout, comme je le disais tout à l'heure, c'était toute mon enfance qui s'était envolée en fumée. Et donc voilà, pleurer toute la nuit.
Au Vors, la bataille est pourtant loin d'être terminée. Le combat direct contre les flammes, Jean-Noël, un agriculteur de Lozère, va directement y assister. Sa ferme est à 4 km au nord du Vors. Ce samedi 13 août, il annule ses vacances au dernier moment vu l'ampleur du sinistre. Connaissant bien le secteur, Jean-Noël se présente alors au poste de commandement inquiet du sort du Vors et des autres hameaux dans la trajectoire du feu. Le chef des pompiers l'enrôle alors comme éclaireur.
On savait très bien que si ça partait par là-bas, ça allait prendre beaucoup d'ampleur. Donc le commandant de Millau m'a demandé de monter avec lui dans la voiture, justement pour aller localiser donc, quel chemin permettait d'y aller. Ce que j'ai fait, bon, là c'était déjà un peu impressionnant parce qu'on voyait les flammes loin de nous. On s'arrêtait à tout le carrefour pour mettre les rubalises pour pouvoir guider les pompiers. Puis arrivé au Vors, après le feu avait vraiment pris de l'ampleur, et il est arrivé jusqu'au Vors, jusqu'en dessous des maisons. Et là je me suis trouvé avec l'équipe des pompiers, notamment du Massegros. Les flammes se sont vraiment orientées vers le hameau, à tel point qu'il y a un des pompiers qui était dans l'équipe qui m'a dit « ce coup-ci on va griller ». Et donc c'est vrai que ça n'avait rien de rassurant pour moi parce que je ne suis pas habitué. Puis c'était vraiment très très impressionnant, la chaleur, et puis les flammes étaient vraiment à quelques mètres des maisons, des flammes énormes. Et là, quelques minutes après, il m'a dit « Rentre-toi dans une voiture, on a réussi à voir les avions et ils vont lâcher. »
Mais la soirée ne s'arrête pas là. Après les largages aériens sur le Vorse, l'incertitude demeure sur la situation d'autres maisons isolées, plus loin, au bout du plateau. Tandis que les pompiers continuent de lutter contre les flammes autour du hameau, Jean-Noël accompagne le responsable de la caserne locale vers l'extrémité du Causse, toujours en proie aux flammes.
Les flammes étaient complètement au bord du chemin et des flammes très hautes. Et, bon, dans la voiture, il me disait surtout tu laisses les vitres fermées parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de braise qui rentre. C'était un vent de braise qui traversait devant la voiture. Et alors moi, j'ai dit mais tu sais que là, on ne fait pas demi-tour. Quoi. J'ai dit on va dans un cul-de-sac. Il m'a dit mais on ne craint rien, il y a la radio, si on a un souci, on vient à nous chercher. Bon, mais moi, j'avoue que j'étais beaucoup moins serein que ça. On a traversé toute cette zone dans un paysage lunaire. Donc ça brûlait à une vitesse inimaginable. Le feu avait tout traversé et on voyait guère que des fumerolles ou des souches qui brûlaient. Et arrivé au Puech, donc on a vu cette jolie maison toute en pierre et qui manifestement avait bien résisté aux flammes. Bon, par contre, on voyait que toutes les chenaux plastiques étaient fondus, donc ça avait bien chauffé. Et puis on s'approche encore et on s'est aperçu qu'il y avait un petit appentis en bois qui était en train de commencer de brûler. La volige, donc les planches sous les tuiles, étaient en train de prendre feu. Puis après j'ai vu qu'il y avait une barrique de 200 litres qui n'avait pas fondu, donc il y avait de l'eau là-dedans. On a trouvé une espèce de boîte, puis on a réussi à éteindre ça. Donc là, une fois qu'il a vu que c'était sécurisé, il m'a demandé s'il y avait autre chose aux alentours. Et au moment où il me demande ça, on entend une grosse explosion. Et j'ai dit oui, effectivement, il y a deux cabanes de chasseurs qui sont là. Et donc, il y en avait une qui... Donc, je pense que la bouteille de gaz venait d'exploser.
Pas le temps de s'attarder, la nuit tombe et le vent tourne, ramenant le feu vers le nord et la Lozère. Jean-Noël revient alors au Vorse et y retrouve son frère Serge. Souvenez-vous, c'était lui qui s'était pressé au départ du feu avec sa cuve, au tout début de l'incendie. Mais là, c'est autre chose. Le chef des pompiers a urgemment besoin de créer un accès à partir d'un petit sentier pour que les secours coupent complètement la route du feu qui remonte.
Il me dit qu'il me faudrait une piste qui fasse en gros ouest-est pour essayer d'arrêter le feu à ce niveau-là. C'était un sentier qui se pratiquait guère qu'en vélo, c'était un ancien chemin mais qui ne faisait pas 2 mètres de large.
Il m'a dit « Bon Serge, le chemin est étroit, il faut que tu élargisses 1 mètre à gauche, que les camions puissent passer. Tu es prudent, il y a le front de feu qui t'arrive dessus et moi je te mets les allumeurs de feu derrière. » Les gars qui allument le contre-feu. Alors en fait, moi j'allais droit dans le brasier. Là je ne faisais pas la malin, parce que j'ai dit si j'ai un ennui mécanique, eh bien, je peux prendre, me sauver, éviter. Et ça a marché, hein, l'histoire du contre-feu. Mais par contre, ouais, c'est vrai que de nuit, ça fait bizarre. Hein, ça fait bizarre hein. Et j'y suis resté jusqu'à 1h ou 2h du matin à peu près. Puis après, il y a un collègue qui est venu, avec un autre bulle, qui est venu prendre le relais. Parce que moi j'étais nettoyé, complet.
Au même moment, Marie et Armand, exilés chez des proches près de Rodez, à 1 heure de route, se perdent en hypothèses. Dans le groupe WhatsApp familial ou sur Facebook et Twitter, l'incertitude sur le sort de leur maison dure jusqu'au lendemain matin.
Une cousine qui a relayé un communiqué de la mairie, je crois, qui disait que le feu avait enjambé le Vorse. Et là, grosse spéculation, on disait, est-ce que ça veut dire qu'il est passé par-dessus, donc que c'est tout brûlé, ou au contraire qu'il est passé par-dessus sans toucher et donc c'est pas brûlé, enfin, on n'en savait rien.
J'ai souvenir d'avoir trouvé des vidéos amateurs avec des flammes en pleine nuit gigantesques qui font, je sais pas, 15 mètres de haut. Et j'ai l'impression que j'ai eu la confirmation que le Vorse avait été épargné par un journaliste du Midi Libre, que je questionne directement sur Twitter, parce qu'il avait dû poster quelque chose avec une carte qui était la carte de l'incendie, et sur le Vorse, c'était pas clair. Donc je lui ai envoyé un message direct en lui disant « Est-ce que vous êtes sur le terrain et est-ce que vous savez si le Vorse est épargné ?» Et il me confirme qu'a priori, les maisons sont debout. Quoi.
Un artisan, un menuisier qui travaillait chez moi pour refaire un escalier, et qui m'appelle en me disant, alors là, je savais qu'il était pompier volontaire, décharge électrique de crainte au moment où je vois son numéro qui s'affiche sur mon téléphone. Et puis il me dit, je suis désolée, j'ai pas, avec les incendies, là, j'ai pas eu le temps de, j'ai pris du retard sur le travail et donc j'ai pas eu le temps de finir la rambarde. Et là, c'était la meilleure nouvelle de toute ma vie. Parce que si l'artisan s'excusait que la rambarde n'était pas finie, c'est que la maison n'avait pas brûlé, sinon ça n'aurait pas eu d'intérêt de faire une rambarde. Et donc, voilà, il m'a confirmé que la maison avait bien été sauvée par les pompiers, qui s'étaient battus toute la nuit pour protéger ces maisons. C'est le terme qu'il a utilisé, la bataille du Vorse.
Et puis là, à 6h, il y a eu un peu de brune, disons qu'il s'est mis à, il y a de l'humidité qui s'est mise à tomber. Là, on a compris que le feu était circonscrit, que c'était la fin. Bon, ça a été un grand soulagement. Donc on est resté au lit jusqu'à 8h. Et à 8h, on n'a pas demandé le reste. On a pris notre voiture et on a commencé nos vacances.
La bruine matinale est le premier signal annonçant la fin de l'incendie. La journée est encore chaude, mais la météo tourne favorablement dans l'après-midi. Pour la première fois depuis 2 mois, il pleut sur les gorges du Tarn. Pour la plus grande joie de Jean-Luc et Cécile à Commérass et de Marion dans son restaurant en Rosier.
Et là, il y a l'orage.
On voit arriver du cause de sauveterre.
Ouais.
Des nuages noirs, on se dit...
Waouh, il va enfin pleuvoir, super.
On croise les doigts, oui. Tu vois, parce qu'on se dit, ça peut quand même aider, quoi. Et là, il tombe des saucées, mais tu vois, l'eau, elle est à 45 degrés, quoi. C'est vraiment impressionnant.
Ah ben là, c'est la fête, hein. Avec Liline, on a dansé sous la pluie, parce que... Parce que c'était lui qui allait éteindre le feu quand même, hein.
On l'attendait. On pouvait espérer ou aider les pompiers en retardant ou au moins éteindre carrément.
C'était la fin de la sécheresse entre guillemets, parce que ça faisait je sais pas combien de jours qu'il n'avait pas plu aussi, hein, donc on l'attendait la pluie.
Parce que même si ça n'éteignait pas, si tu veux, comme un canadair, tout allait être humide et ça c'était important.
Au moment où il a commencé à pleuvoir, ça a fait un tri automatique entre les gens du coin. Et les autres, les gens du coin, tout le monde est sorti dans la rue prendre la pluie. On s'est tous mis sous l'eau avec le bonheur, un sourire. Mais alors, bienvenue la pluie, on était tous contents. Les autres sont restés à l'abri, mais nous, on attendait que ça. C'était salvateur, quoi. Et puis la redescente, on commence à avoir les copains qui ont été à droite, à gauche, qui ont pris des photos là-haut. On regarde un peu. Alors nous, on avait fait les livraisons pour les pompiers. Donc on avait vu au plus près... la forêt brûlée, quoi. Et puis maintenant, c'était un peu le moment du constat où ça ne brûle plus. Et puis voilà, voir l'ampleur des dégâts. Ouais.
Le dimanche 14 août au soir, la population est autorisée à rentrer chez elle. Le feu est enfin fixé, maîtrisé, mais pas encore éteint. Au soulagement se mêle la tristesse. À mesure qu'on découvre l'ampleur des dégâts sur l'environnement, notamment sur le Causse, un lieu-dit a été particulièrement meurtri, les Casals. Une maison en pierre avec à l'entrée cette pancarte « Bout du monde ». Muriel a acquis cette propriété avec 50 hectares de terrain boisé il y a quelques années, en vue d'y passer une retraite paisible. 2 ans avant le feu, Muriel avait eu la bonne idée de couper la quasi-totalité des pins à proximité directe de la bâtisse, parce qu'à l'époque, les chenilles processionnaires pullulaient. Et c'est à ça que Muriel doit d'avoir sauvé sa maison.
La maison de la forêt, j'avais fait une maison de la prairie. Et maintenant, j'ai la maison de la clairière.
Au-delà des abords immédiats préservés, la totalité des 50 hectares ont brûlé.
On faisait comme tout le monde. On prenait nos mouchoirs et on pleurait.
Ouais.
Ils nous ont laissé passer, les propriétaires, ils nous ont laissé passer l'après-midi parce que bon, ça, s'il y avait eu un orage, ça avait calmé. Le plateau déjà avait tout brûlé et on est arrivé ici pour constater les dégâts. On a l'impression de rentrer d'un film d'horreur.
Ça fumait à des endroits encore. Ça fumait, il y avait des fumerolles. C'était très lunaire et quand monsieur et madame Bonafousse sont arrivés ici avec la voiture, ils étaient en sanglots, il faut comprendre. Et la maison était protégée, ils l'ont sauvée, mais le reste, leur forêt, leur plaisir de venir se promener, machin, ils ont tout perdu, ils ont été très traumatisés.
La fin du brasier, mais pas encore de l'incendie, laisse place à des sensations étranges. Assez vite, malgré les interdictions de circulation pour cause de routes dangereuses, pas mal de monde veut aller voir sur place, par les sentiers, par le plateau. Beaucoup ont besoin de sentir, éprouver ce que c'est que cette terre brûlée.
Et moi, je suis tout de suite allée dans la forêt. Au bord de là où on pouvait aller, je tâtais la terre qui était encore chaude. C'est moche, c'est traumatisant, mais je voulais savoir, je voulais voir. Pour que de suite ça passe à autre chose. Donc j'ai vu les arbres, c'est comme si c'était des copains en fait que je connaissais bien et qui étaient morts là. Ça me faisait vraiment un truc comme ça.
C'est comme si vous avanciez au pays de la mort. Et dans ce paysage dévasté, une odeur. Mais délicieuse, mais absolument délicieuse. Ce sont les pins qui avaient dégazé et ça sentait l'essence de pin. Dans ce paysage de mort, vous aviez cette odeur de paradis, quoi. Ça a duré plusieurs jours. Et là, j'ai remarqué aussi que donc les pins, ils avaient vraiment aucune chance de s'en tirer. Mais par contre, les feuillus, ils étaient là encore, quoi. Et on sentait que malgré la morsure du feu, eux, ils allaient renaître, même s'ils sont tout petits.
Moi, personnellement, c'est vrai qu'en tant qu'ancien pompier, je n'ai jamais connu personnellement de type de ce feu. Je suis allé sur le feu après, une fois que c'était terminé, pour aider des collègues pour débaliser. Donc je me suis promené, j'ai eu la malchance de me promener à l'intérieur donc, du périmètre incendié. C'est une image de désolation. De questionnement et de tristesse. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire ? Comment ça se fait que tout brûle ? Voilà, on se retrouve complètement démuni et impuissant face à l'ampleur du sinistre. Après, on voit toute la nature qui est noire. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Un grand silence, plus d'animaux, plus d'oiseaux. Le calme, le silence, c'est impressionnant.
Mais pendant encore 3 semaines, ce calme reste seulement apparent. Car sur le Causs, dans les hameaux les plus touchés, aux côtés des émotions fortes, on se doit de rester en vigilance permanente. Car il y a toujours des reprises, des fumerolles. De moindre intensité, certes, mais ça continue, tout comme les allées et venues des pompiers.
Voir sur un petit écran, c'est pas pareil que de le voir en vrai, de le vivre. Et puis ça sentait beaucoup encore le feu. Il y avait encore des fumerolles par-ci par-là, qu'on a d'ailleurs éteints. Et donc là, pareil, recrise de larmes en arrivant, en voyant l'état dans lequel était le paysage. Mais en même temps, énorme gratitude que les maisons soient encore debout et que finalement, ici, au Vors, on soit dans une zone très très protégée. On peut ne pas regarder les arbres brûlés et c'est encore vert autour de la maison.
Où qu'on aille, on fait 50 mètres et on tombe dans le brûlé, dans quelques directions. On est à Nilo, au centre d'un feu, quoi. Pendant quoi, une dizaine de jours, jusqu'au 6 septembre, on a eu en permanence des reprises du feu. Donc on voyait des fumées dans les parties brûlées, reprendre. Mais lorsque c'était à la lisière, évidemment, entre ce qui est brûlé et ce qui ne l'est pas, dans l'humus, dans la mousse, ça couvait pendant très très longtemps. Ça pouvait être brûlant. Et ça, c'est capable de faire des sauts souterrains à 50 mètres de nos maisons. On a eu des reprises du feu avec des flammes, des pins qui brûlent. Et là, avec mon beau-frère et des pelles, on s'est battu, les femmes apportaient de l'eau. Le temps que les pompiers arrivent, ils sont arrivés au bout d'une vingtaine de minutes. Et bon, ils ont pu maîtriser cette reprise. Mais celle-là était dangereuse parce qu'elle menaçait de rebrûler ceux qui n'étaient pas brûlés entre venir vers les maisons. Quoi. Voilà.
Et puis, enfin, après plusieurs orages importants, le 5 septembre 2022, près d'un mois après la première étincelle, l'incendie est définitivement éteint. Au village, on souffle, on respire et on commence à apprivoiser ce nouveau paysage.
Bah ça fait mal quelque part. Je me suis dit, bah ça y est, on en a pour des années et des années à avoir sous les yeux ce paysage transformé et brûlé. Comment la nature va pouvoir reprendre et quand est-ce que ça sera à nouveau vert, quoi, hein. Voilà, c'est le vert contre le noir. On se dit combien de temps ça va prendre, en sachant que, bon, la nature est très résiliente et donc un jour ça viendra, mais nous qui sommes déjà un peu âgés, est-ce qu'on verra ce qu'on a connu avant ? On ne sait pas, quoi.
Et je sais pas, moi je vois pas une unité, je vois plein de petits détails qu'on découvre au fur et à mesure, et de découvrir, oui, bah là il y a les chaînes qui repartent l'année d'après, ou là, sans enlever le côté de tout ce qui a été perdu, mais par exemple le ravin du Salzé, moi on y est allé beaucoup randonner, ça, on le connaissait déjà très bien, et du coup c'est sûr que là d'y retourner, c'est redécouvrir les sentiers, voir est-ce qu'on se repère. Après, c'est pas pour autant qu'on y va quand même moins souvent qu'avant, parce que c'est sûr que quand même à la fin d'une journée de balade dans l'incendie, on n'aurait pas comment le décrire, mais ça fait une drôle de sensation.
Enfin, déjà les contrastes visuels, c'est du noir, du blanc, et ce qui repousse ressort de façon très très vive quand c'est je sais pas, je pense au feuillage, aux mousses, mais aussi ça a tellement rien à voir avec tout ce qu'il y a autour. C'est quelque chose de tellement inhabituel qu'on marche pas pareil dans cet espace-là. Je sais pas comment dire, cette présence déjà du charbon partout, les branchages, ils sont pas posés comme dans une forêt vivante, quoi. Je sais pas, ça vient chercher à d'autres endroits au niveau des sens, quoi. Que ce soit, ben voilà, comme disait Nico, le silence, que ce soit, je sais pas, les craquements, c'est pas les mêmes. Donc ça se joue un peu à différents endroits, puis l'odeur au début, moi ça me hantait, quoi. J'avais l'impression de sentir ça partout, cette odeur de feu. Et en fait c'est assez bizarre parce qu'on regarde pas le paysage de la même façon. Il y a des reliefs qu'on voyait pas, qu'on voit. Et le fait que ce soit noir et blanc, en fait, entre justement le charbon et le côté très blanc du calcaire, c'était des images assez assez particulières, enfin assez inconnues.
Pour d'autres, comme Marie, Jean-Noël, Maxime, Sylvie, il faut plus de temps. Plusieurs semaines, plusieurs mois, voire au-delà, car c'est trop dur, c'est trop tôt pour aller marcher là-dedans. Et pourquoi faire désormais que tout est réduit en cendres ?
En dépit du fait qu'on ait vu la montagne brûler de nos propres yeux, il y a justement cette phase où ça s'arrête. Moi, en tout cas, j'ai fait le choix de ne pas y aller tout de suite. J'en avais déjà vu des incendies impressionnants qui ravagent toute une montagne. Du coup, je sais à quoi m'attendre quelque part, et je sais que je suis pas prête à aller voir ça. Et j'ai mis plusieurs mois à y aller, quoi. Constater, en fait, et comme on le disait, ça a pris un peu de temps. Il y a l'aspect visuel de ce que tu vois, et il y a le silence dans les sensations qui sont déstabilisantes, quoi. Voilà. Une fois constaté, je suis partie et je n'avais pas l'intention d'y retourner dans un premier temps.
En m'approchant de ce secteur là-bas, j'étais obligé de faire demi-tour. J'ai dû passer à J'ai passé plusieurs semaines, je ne pouvais plus y retourner, quoi. C'était la frustration de voir la désolation de ce paysage, quoi. On adore notre coin, on adore ce pays. Bon, c'était des forêts qui étaient venues de façon naturelle. On sait très bien que dans notre vie, on ne les reverra pas comme ça, parce que entre le changement climatique qui va pas favoriser la régénération, c'est quand même un sol pauvre. Et bon, c'est un crève-cœur de savoir que c'est une situation assez irréversible, quoi.
Il faisait sombre, c'était après l'orage, et moi j'ai trouvé ça horrible. C'était tout était noir. Voilà, donc j'ai pas voulu continuer plus loin là. Moi je trouvais ça assez sinistre, quoi. On a vu les traces, tout le boulot que les gens ont fait pour défendre les maisons, pour défendre le pays.
La vue me suffisait pour me rendre compte des dégâts, et après on avait eu accès à des photos par hélicoptère et tout pour se rendre compte aussi de l'ampleur du truc, et on s'est dit waouh, ah ouais, quand même. C'est impressionnant, non, moi je sais que j'ai pas voulu y aller de suite non plus.
Là, j'y suis retourné maintenant parce qu'effectivement, la vie, elle reprend tranquillement. Effectivement, t'as les buis repoussent, il y a des fleurs, il y a de la mousse qui arrive. Il reste forcément les stigmates de l'incendie, les troncs sont brûlés, mais c'est un peu burtonien, tu vois, comme ambiance, quoi. Et en même temps, en fait, t'as les deux, quoi. T'as la désolation et en même temps la vie qui reprend. Ça fait partie du cycle de la vie, quoi. C'est la mort qui donne la vie et l'inverse aussi. Là, ce cycle-là, bah, tu peux le constater là de tes yeux et c'est moins triste.
Elle va être longue, cette renaissance, mais bien visible dès la fin de l'année 2022 et plus encore au printemps suivant. Toute une période où les habitants pansent les blessures de ces semaines ardentes, alors que du côté des autorités, on doit déjà penser au reste, car il y a fort à faire. Les routes, les pierres, les cendres, l'eau, le bois, tout un tas de choses à décider et régler tout de suite. La gestion post-incendie vient de commencer.
C'était Résonance du feu, épisode 3, du brasier aux cendres. Une série documentaire écrite et réalisée par Elsa Souchet et produite pour Radio Larzac. Un projet soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre d'une résidence de journalistes sur la commune de Mossuéjoul, en Aveyron. À suivre sur radiolarzac.org.